おかしいおかしい。おかしい。
Bonsoir, bienvenue dans cette émission Céline de la Presse qui vous propose trois thèmes à savoir. Disparition tragique des forces BRCBA, le Conseil supérieur de la Défense a suspendu le week-end dernier l'inspecteur général de la police nationale congolaise pour raison d'enquête. Ensuite, situation sécuritaire en Ituri en province orientale, le colonel FRDC Cobra Matata a rejoint le maquis de son ancienne ministre, le FRCI, situation qui inquiète la population. Enfin, Roger Nix succédera à Alain Dos comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo. Trois journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Félix Gabuzi, il est directeur de publication du quotidien La Référence Plus, un journal qui paraît à Kinshasa. Luc Mikomo Kabongas, éditeur du journal Nouveau Regard et directeur des infos à Congo Web, une télévision qui est née depuis Kinshasa. Et Raphaël Kiongi, directeur de rédaction du journal Jonction, un hebdomadaire qui paraît à Goma au Nord Kivu. Suspension de l'inspecteur général de la police, situation sécuritaire à Ituri, ainsi que Roger Nix pour succéder à Alain Dos, tels sont les thèmes retenus pour le débat ce soir. Comment la presse chinoise a traité ces différents thèmes, nous les saurons à travers cette régie de presse que nous propose Samuel Katiak.
L'assassinat de Floribert Chebeya, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix, a fait la une des journaux Paris cette semaine à Kinshasa. Le phare titre, affaire Chebeya, les têtes commencent à tomber. Ce journal rappelle aussi l'arrestation de plusieurs officiers de la police, dont le colonel Daniel Mukalai, qui serait passé aux aveux. Le potentiel qui cite Jean Numbi comme premier suspect, annoncé l'inspecteur général de la police nationale congolaise, vient d'être suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Kabila très fâché, Jean Numbi devant la justice, renchérit pour sa part le quotidien La Prospérité. Ce journal estime qu'avec la suspension de Jean Numbi Banza Tambo de toutes ses fonctions, ce dernier est devenu citoyen libre et dégagé de ses responsabilités d'officier. Il devra donc se défendre devant l'office du procureur général de la République où une information judiciaire est déjà ouverte. Par cette suspension, Joseph Kabila tient à démontrer qu'il n'y a pas d'intouchable, souligne pour sa part le palmarès. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la décision du colonel FRDC Cobra Matata de rejoindre le maquis de son ancienne milice du FRPI. À ce sujet, la référence plus qui relaie cette information annonce que des opérations d'investigation sont lancées par les FRDC pour mettre la main sur cet officier des forces armées de la RDC. Terminons cette revue de la presse avec toujours la référence plus qui révèle le nom du successeur du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Il s'agit de Roger Nix qui succède à Alain Dos. Pour le climat tempéré, la nomination de Roger Nix peut être perçue comme une manière de rassurer et un signal d'apaisement des Nations Unies en direction des autorités de Kinshasa.
Merci Samuel pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Félix Kamouzi, vous êtes directeur de publication du quotidien La Référence Plus, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Votre commentaire par rapport à la manière dont la presse chinoise a accepté les différents sujets que nous avons retenus pour les débats ce soir.
Je crois que en ce qui concerne le premier sujet, c'est-à-dire le décès de Chebeya, c'est encore une information qui reste d'actualité, vu le différent développement qu'on y enregistre chaque jour. Le deuxième sujet est aussi un sujet très important parce qu'il s'agit, si vous voulez, de la situation sécuritaire dans une des zones les plus troubles, n'est-ce pas, du pays, avec un ancien chef de la milice FRPI, Cobra Matata, qui avait rejoint le FARDC, propulsé même colonel. Et cet officier de l'armée a disparu de Kinshasa. Il a fait tout le trajet pratiquement sans se faire identifier, sans se faire reconnaître, juste à retrouver son maquis. Mais je pense qu'au-delà de ces sujets, on aurait pu également évoquer, si vous voulez, la mission du président Kabila à Bukavu, où il est allé remettre de l'ordre, si vous voulez, hein, en préparation de l'élection du nouveau gouverneur. Il y a également, si vous voulez, son passage à Goma, où il a tenu hier une réunion de sécurité. Et le dernier sujet, est aussi, qui était très important aussi, c'est l'interpellation du Premier ministre au Sénat, une interpellation qui s'est terminée hier en quelque sorte en beauté. Voilà.
Luc Mikomo-Kabongas, vous êtes éditeur du journal Nouveau Regard et directeur des infos à Congo, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Votre appréciation par rapport au travail de la presse chinoise de cette semaine?
Je salue d'abord la manière dont les différents confrères ont abordé ce sujet et l'intérêt. Vous avez dit, Félix, que l'actualité est restée focalisée autour de l'événement qui crée la désolation, la stupeur, l'indignation. La mort de Florian. Mais je constate quand même que certains confrères prennent le raccourci. Quand ils disent des têtes commencent à tomber, ça c'est mon confrère le phare, je crois que c'est trop vite dit. Hein. Dans tous les pays, quand un événement de cette ampleur-là arrive, on demande aux responsables immédiats de pouvoir se désengager de leurs fonctions pour permettre à la justice de faire un travail.
C'est tout à fait logique.
Ce qui est tout à fait logique. Donc, aucune tête n'est encore tombée jusqu'à présent. Concernant pauvre Matata, moi je suis éberlué. Comment on peut venir un chef de guerre? On l'a entre ses mains et on tombe dans une distraction coupable, j'allais dire. Comment s'est-il échappé? Autant de questions qu'on est en droit de se poser. Est-ce que on a minimisé les dangers qu'il pouvait représenter après son aventure meurtrière? Moi, je crois qu'il y a quand même à faire attention. Alors, concernant le remplaçant de Monsieur Alain Doss, qu'on a beaucoup aimé, autant qu'on a aimé ses prédécesseurs, mais en tout cas pour moi, dans le fond, ça ne change rien. De la MONUC à la MONUSCO, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc.
Ok, c'est votre point de vue. Raphaël Kiongui, vous êtes directeur de rédaction du journal Jean Science, c'est un hebdomadaire qui paraît à Goma, au Nord Kivu. Et quelle est l'actualité qui a dominé au Nord Kivu cette semaine?
Oui, la semaine, on a connu la présence, la visite surprise du chef de l'État d'abord à Bukavu, avant de venir à Goma et de terminer son passage dans l'ancien Kivu, par Kindu. Donc ici, cette visite n'était pas d'abord attendue, ce qui fait que une fois la surprise passée, la population, l'opinion locale s'est intéressée à comprendre tout ce qui s'est passé entre le chef de l'État et les contacts qu'il a pris aussi avec surtout les PNDP, dont les silences par rapport à certaines actions menées dans certaines localités du Rutshuru, du Masisi, pose problème. Donc, le fait que le président soit passé et le fait que le président se soit entretenu pendant plus d'une heure avec plus ou moins 69 officiers, dont 5 généraux du Nord Kivu et du Sud Kivu, la police et l'armée ensemble, et c'est de l'opération à Manivelu, montre effectivement qu'en fait, disons ça, à provoquer une certaine accalmie dans l'opinion parce que les gens s'inquiétaient et on se disait qu'il était fort à craindre que la relance de l'hostilité réalise une réalité dans les jours à venir. Donc la présence du chef de l'État continue encore à alimenter, disons les passages du chef de l'État continuent à alimenter les conversations à Goma comme à Bukavu.
Merci.
C'est ça qui domine l'actualité.
Merci. D'abord, comme vous le savez, c'est pour la première fois que l'Afrique organise une édition de la Coupe du Monde, et cela se passe en Afrique du Sud. Nous allons émettre un petit commentaire par rapport à ces grands rendez-vous sportifs. Luc Mikomo, comment vous commentez cette 19e édition de la Coupe du Monde qui se déroule sur le continent africain et plus précisément en Afrique du Sud?
En fait, c'est l'aboutissement ou le couronnement, si vous voulez, du combat de l'Afrique à pouvoir répondre présent dans les grands concerts des continents, dans les grands concerts, les grands rendez-vous qui marquent des siècles. Il y a la Coupe du Monde, la toute première qui s'organise en Afrique du Sud. Vous n'avez qu'à voir les images. Partout au monde, jamais une Coupe du Monde n'a su mobiliser un continent comme l'Afrique du Sud. On dirait que le football est né en Afrique. En Afrique, donc, il n'y a pas seulement le spectacle du foot, du cuir rond, mais il y a aussi la richesse, l'émotion africaine, une implication de l'Afrique tout entière pour que cet événement reste marqué. Et je crois déjà, quelle que soit l'issue de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud aura fait une très grande distinction avec étonnement et bâillement du jury.
Oui, Félix Kabouzi, l'Afrique aligne dans cette compétition ses équipes. Quelle chance accordez-vous à ces équipes africaines?
Bon, je crois que d'emblée, on ne leur accorde vraiment pas beaucoup de chance. Je pense que quand vous essayez de suivre le palmarès des équipes qui sortent du lot, c'est le Brésil, c'est l'Espagne, c'est les grandes nations de football européennes et américaines. Je pense que très peu de chance, sincèrement. Mais je peux souligner, comme vous l'avez si bien dit, la qualité du fait que par le passé, l'Afrique était souvent représentée soit par une ou deux équipes ou trois, mais nous sommes cette fois-ci passés jusqu'à six équipes. Et il faut souligner aussi le fait que la plupart des joueurs des équipes africaines jouent également dans les championnats extérieurs, donc il y a une évolution positive.
Oui, Raphaël Kiwongi, une fois de plus, la RDC est absente là, dans cette compétition. Et quel est le sentiment que vous éprouvez lorsque vous dites que voilà, mon pays n'est pas présent en Afrique du Sud?
Oui, ça fait de la peine, beaucoup de peine pour une grande nation comme la RDC d'être absent à un rendez-vous comme celui-là, parce que ça fait de l'événement, ça fait une grande fierté pour l'Afrique de pouvoir organiser une telle compétition avec tout ce qui est là comme effet, c'est la promotion du pays hôte sur, disons, la jeunesse montante de ce pays. Mais pour nous, disons, de manière générale, en ce qui me concerne personnellement, je pense que nous devons pas continuer à nous lamenter. Nous devons plutôt voir dans quelle mesure nous pouvons redresser les fronts et faire en sorte que ce qui se passe, l'exemple sud-africain, puisse nous servir de leçon pour que demain soit un autre jour pour la RDC, au lieu de rester là en train d'admirer ce que font les autres.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Disparition tragique de Floribert Chebeya. Le Conseil supérieur de la défense a suspendu le week-end dernier l'inspecteur général de la police nationale congolaise pour raison d'enquête. La décision est tombée samedi dernier tard dans la nuit vers 23h. C'est l'une des résolutions du Conseil supérieur de la défense présidée par le chef de l'État Joseph Kabila. Cette suspension, c'est pour permettre le déroulement dans la sérénité de l'enquête sur l'assassinat de Floribert Chebeya, directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans Voix, trouvé mort dans sa voiture à Mitendi, à la périphérie de Mongafula, mercredi dernier, et qui, selon ses proches, était invité la veille par l'inspecteur général de la police, qui vient d'être suspendu. On écoute le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, Ados Dumanu Mulenda Bwana Sefu, annoncer cette suspension à la presse.
Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, a présidé dans son bureau de travail, ce samedi 5 juin 2010, une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense. Le chef de l'État a fait part aux membres du Conseil de l'émotion suscitée par la mort de M. Floribert Chebeya Bahizire, directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme, et de sa détermination à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil de l'enquête judiciaire ouverte à l'Office du procureur général de la République en vue de déterminer les circonstances et actes de cette mort. Le Conseil tient à rassurer l'opinion que cette enquête sera menée en toute objectivité et transparence par la justice congolaise. D'ores et déjà, les premiers éléments d'enquête ont abouti à l'interpellation et à l'arrestation de certains officiers de la police nationale congolaise. Aussi, pour permettre à cette enquête de se dérouler dans la sérénité, le Conseil a décidé de la suspension à titre conservatoire de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, John Nungi Banza Tambo, et désigné pour exercer à titre intérimaire les fonctions d'inspecteur général de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire adjoint Charles Bikindimana.
Dans une déclaration faite hier jeudi, le procureur général de la République a affirmé que la thèse des meurtres est attestée en ce qui concerne la mort de Floribert Chebeya. Flori Kwabangé Numbi affirme que la justice congolaise mène bien ses enquêtes. Il ajoute qu'elle n'a pas encore rencontré de difficultés pour solliciter d'être épaulée par des enquêteurs internationaux. Félix Kabouzi, comment avez-vous réagi par rapport à cette réaction du Conseil supérieur de la Défense?
Bon, la première, les premiers commentaires que le journal a fait, c'est de constater que le Conseil supérieur de la Défense a plus ou moins rejoint ce que la rumeur ou les rumeurs disaient au lendemain, n'est-ce pas, de la mort de Chebeya. Beaucoup de gens avaient vite pensé que il pouvait s'agir d'un meurtre où les services de sécurité devaient être impliqués. Et lorsque le Conseil supérieur de la Défense a annoncé la suspension à titre conservatoire de l'inspecteur général, cela semblait tendre vers cette rumeur-là. Et je crois qu'avec l'annonce que l'inspecteur général, plutôt le procureur général de la République, a faite hier sur l'évolution de l'enquête, il se crédite de plus en plus, n'est-ce pas, la thèse d'un meurtre. Maintenant, ce qui reste à savoir, puisque le procureur ne l'a pas dit, lorsqu'on parle de meurtre, ça signifie qu'on désigne les meurtriers. Ça signifie qu'on désigne le mobile, ça signifie qu'on arrive à décrire les circonstances, ça signifie qu'on arrive à identifier les commanditaires. Je crois qu'à ce niveau-là, tout n'est pas encore suffisamment donné, de sorte qu'on devrait absolument, comme mon confrère l'a dit, on devrait rester plutôt assez prudent, puisque le procureur a tout simplement dit que les premiers éléments tendent à attester un meurtre par qui. Est-ce que c'est comme le général Oleko avait tenté de le dire la fois passée, par des inconnus? Est-ce que c'est par les éléments de la police? Dans quelles circonstances tout cela n'est pas encore dit? Je pense que nous en sommes à nous interroger, mais de plus en plus, les gens ou l'opinion pensent que l'enquête évolue vers ce que la rumeur ou sur ce que les hypothèses des premiers jours avaient annoncé.
Oui, beaucoup de questions continuent à être posées, Nico Mokabongat. La suspension de l'inspecteur général de la police suffit-elle pour que l'enquête se déroule avec fluidité? N'y a-t-il pas d'autres préalables qui devraient être accomplis afin que cette enquête se déroule comme il se doit?
Bien sûr, Alain, donc la suspension du général John Lombi, ça ne suffit pas, visiblement. Mais il n'y a pas que lui qui est suspendu. Il y a encore plusieurs officiers de la police dont on a cité les noms dans la revue de presse qui ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Mais en tout cas, moi je pense très sincèrement que la mort de Floribert Chebeya, qui d'ailleurs m'a assisté personnellement en 2005, j'avais eu quelques yo-yo, il est venu à mon secours, mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression là qu'il y a cette mort, c'est comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. La première chose, c'est que la réaction de la communauté internationale, ça me laisse perplexe et je m'interroge. Nous, dans Nouveau Regard, nous avions titré l'assassinat de Floribert Chebeya, un coup pour Joseph Kabila.
Pourquoi?
Pourquoi tout simplement? Parce que si vous suivez les différentes analyses qui sont en train d'être faites, les gens vont vite en besogne pour dire c'est un meurtre politique, un crime politique. Quand on dit crime politique, donc le pouvoir est impliqué d'une manière et d'une autre. Et lorsqu'on se trouve, on se situe dans le cadre de la police, un ordre de l'anéantissement, de la disparition de l'homme comme Floribert Chebeya ne peut pas venir de n'importe qui. Alors, moi, je reste un peu interrogateur quand je vois que les États-Unis proposent même l'intervention du FBI. La Hollande a demandé que 4 médecins légistes viennent, c'est une bonne chose, mais cette réaction, ça me laisse interrogateur. Comme je dis, on a connu des morts ici, Ndike, Bapoua, et à Bukavu,
Maïsé
et consorts. En tout cas, il y a, à mon avis, une disproportion dans la réaction de la communauté internationale.
Est-ce que cette réaction n'est pas due au fait que lorsqu'il y a eu les morts que vous venez d'évoquer, les enquêtes ont été menées d'une manière qui n'avait pas satisfait
l'opinion? Justement, là, moi je dis ceci, il est bien beau que la communauté internationale intervienne, mais on doit d'abord respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Moi, je suis né dans ce pays, je suis fils de ce pays, il ne faut pas croire qu'après 50 ans, qu'on va tourner autour du pot, et les premiers signes, me semble-t-il, ont été si clairement donnés. Je voudrais que l'intervention de la communauté internationale soit d'abord demandée expressément par la République démocratique du Congo. J'ai entendu le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, dire que l'enquête va être menée par la justice congolaise. J'ai appris aussi de la part du procureur général qui dit n'avoir pas rencontré jusqu'à présent d'obstacles majeurs pour mener cette enquête. Je me dis qu'on laisse d'abord aux Congolais faire leurs preuves. Si vraiment les résultats ne sont pas satisfaisants, alors et alors seulement on pouvait tendre la main ou on pouvait faire appel à la justice dite internationale. Parce que même sur le plan international, tout ce qui se mène comme enquête en cas de situation comme ça, ne donne pas toujours satisfaction au bout du compte. Hein. Et puis, le siècle dernier, ou au début du XXe siècle, il y avait l'affaire Dreyfus.
En France,
oui, ça a pris des années et des années. On risque de pécher par la vitesse. Qu'on laisse à la République démocratique du Congo mener foncièrement, minutieusement, toutes ces enquêtes et qu'elle puisse donner les résultats de ces enquêtes à la communauté internationale et africaine d'abord, d'en juger l'authenticité, la véracité, la crédibilité avant de recourir à une quelconque force internationale.
Oui, Raphaël Kiwangi, comme l'a dit Lutimikomo Kabonga, la souveraineté de la République démocratique du Congo doit être respectée. Et pensez-vous que le fait que la communauté internationale sollicite d'épauler les enquêteurs congolais dans cette affaire, et pensez-vous que cela violerait la souveraineté de la RDC?
Oh non, pas du tout. En tout cas, je suis loin de pouvoir penser à de telles éventualités, dans la mesure où je suis de ceux qui pensent que la suspension du M. John Numbi serait une fuite en avant, surtout que s'agissant d'un soldat devenu policier par la force des choses, il était nécessairement utile à ce que ces enquêtes soient menées par l'auditeur général, au lieu du parquet général de la République, parce que souvenez-vous de Kangike et tant d'autres que les confrères venaient d'évoquer tout à l'heure, c'est l'auditorat général qui s'en est occupé. Pourquoi, s'agissant de Jean-Louis et d'autres officiers suspectés, qu'on qualifie aujourd'hui de maire par le procureur général de la République, et puis l'affaire se passe où soit totalement confiée entre les mains du procureur général de la République. C'est une inquiétude. Et souvenez-vous aussi que M. John Numbi c'est que moi je qualifie de personnes, parmi les personnes qui se retrouvent sur la petite liste de ce que j'appelle des hommes de tous les secrets.
Qu'est-ce que vous voulez dire par les hommes de tous les secrets?
Donc les hommes, vous voyez, tout comme il en est le cas dans tous les systèmes, dans tous les régimes politiques, chez nous, à l'époque de Mobutu, il y avait Mbanda et consorts, la liste est longue, mais pour Kabila aussi, il y a les hommes qui sont dans tous les secrets, donc les hommes qui sont parmi ceux qui participent à la prise de certaines grandes importantes décisions dans la marche du pays. Donc John Numbi est parmi ceux-là. Donc en fait, je voulais montrer que, en fait, John Numbi n'est pas n'importe qui. Donc, John Numbi, c'est un homme tellement important, c'est un homme qui est dans le sillage, ou qui a été dans le sillage du pouvoir, et donc, qui, pour moi, je trouve que sa suspension, suivie de sa mise en examen devant le procureur général de la République, disons, renferme ou m'a l'air de ne pas pouvoir faire aboutir les enquêtes de la façon dont nous le pensons.
Nous allons lire les unes de certains journaux. Le quotidien L'Avenir dit « Assassinat de Kebeya, des têtes tombent, John Numbi suspendu, les officiers de police aux arrêts. » Le quotidien L'Observateur dit « Retombé de l'assassinat de Floribert Kebeya, l'inspecteur général de la police John Numbi suspendu. » Le quotidien La Tempête des Tropiques dit « Assassinat de Floribert Kebeya, Baïziré, John Numbi en résidence surveillée. » Le quotidien Le Palmarès dit « 30 juin Kebeya, Albert II, met fin à la spéculation. » Nous avons le quotidien une fois de plus Tempête de Tropique qui dit « 9 jours après l'assassinat du responsable des VSV, le chauffeur des Floribert Kebeya toujours introuvable. » Et comme vous le voyez, c'est une affaire qui a dominé les unes, les manchettes de tous les journaux pendant au moins des semaines. Et comment expliquez-vous, monsieur Félix Kabouzi, ces déficits d'informations au sujet des affaires de Floribert Kebeya?
Oui, effectivement, il y a un trou total qui règne sur ce point. On ne sait pas, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, si le chauffeur est réellement en vie ou s'il est mort. En tout cas, s'il est mort, les AVSV, tout comme la presse, n'ont pas encore appris là où serait éventuellement entreposé ou gardé son corps. En tout cas, dernièrement, il y a deux jours, je crois, l'AVSV a même publié un communiqué pour se demander si le chauffeur était en vie ou s'il était mort, et dans le cas où il était mort, qu'on leur restitue le corps. Donc, il y a effectivement un flou là-dessus, et c'est même bizarre que même les sources officielles n'en parlent pas. Qu'est-ce qui est difficile à dire sur ce point-là? Si le patron, l'homme le plus connu, l'homme qui était pratiquement ébauba dans le domaine des droits de l'homme, a été retrouvé mort, pourquoi on ne dit rien absolument rien sur la mort de son chauffeur? Je crois que là, ça laisse penser effectivement à peut-être à un scénario encore beaucoup plus macabre.
Oui, Likwikomo Kabonga, il y a aussi un débat autour des funérailles des Floribert Kebeya. Il y a même la date du 30 juin qui est évoquée. Quel est votre point de vue par rapport à ça?
Mon point de vue est que la VSV est tout à fait libre de définir ou de déterminer le programme des funérailles. Mais vu l'importance quand même de la date du 30 juin, parce que parmi ces activistes défenseurs des droits de l'homme, il y a des véritables nationalistes, il y a des gens qui aiment ce pays, quitte à eux de discuter un peu avec le gouvernement. Et là, je dis clairement, le gouvernement ne doit pas avoir honte de négocier avec les défenseurs des droits de l'homme.
Les négociations sont en cours. Nous avons appris que le ministre de la Justice s'est réuni aujourd'hui avec les défenseurs des droits de l'homme, justement pour essayer de trouver une solution.
Ce sont des signaux positifs. Il faut que le gouvernement prenne langue avec la VSV, quitte à la VSV de réunir tous les éléments d'appréciation afin de fixer librement la date de funérailles de Floribert Kebeya.
Nous passons à notre deuxième thème de ce soir, situation sécuritaire en Ituria, en province orientale. Le colonel SRDC Kobra Matata a rejoint les maquis de son ancienne ministre de SRPI, situation qui inquiète la population. Nouvelle inquiétude sécuritaire dans l'Ituria, et pour cause, le colonel Kobra Matata a rejoint les maquis de la force des résistances patriotiques pour l'Ituria SRPI en sigle. Cette information est confirmée par les autorités militaires locales. Pour sa part, la zone opérationnel des FRDC dit avoir lancé une opération d'investigation pour mettre la main sur cet officier FRDC. Les points avec Jean-Paul Bassila.
L'ombre des Kobra Matata a été aperçu en Ituri depuis plus d'une semaine. Cet officier FRDC, ancien leader de la milice de la FRPI, avait quitté son milieu d'affectation Kinshasa en transitant par Kisangani jusqu'à rejoindre les collines de la collectivité des Walendubindi où il est localisé en séjour. Selon les autorités militaires locales, le mouvement de l'ancien chef milicien n'est couvert d'aucune autorisation préalable de l'état-major général de FRDC. Les commandants de la zone opérationnelle des FRDC en Ituri souhaitent que son collègue Kobra Matata revienne à la raison et réintègre les rangs des forces forces régulières le plus rapidement possible. À défaut de le faire, colonel Falk Asigwe indique que des dispositions sont déjà prises pour le traquer, l'arrêter et le mettre à la disposition d'autorités compétentes. Les responsables de la milice qui font populaire la justice au Congo FPJC, sans faire d'autres commentaires, confirment la présence du colonel Cobra Matata dans leur rang depuis quelques jours. Cette nouvelle inquiète plusieurs milieux civils à Ituri qui craignent que le retour des Cobra Matata radicalise la lutte armée des miliciens actifs dans la collectivité de Walendubindi. Bounia, Jean-Paul Bachila, Radio Okapi.
Raphaël Tuongi, comment vous expliquez cette attitude de cet ancien milicien Cobra Matata qui pourtant était déjà intégré dans le FRDC?
Oui, justement, il suffit de séjourner dans l'Ituri, de faire un saut, disons, un petit séjour au niveau du Kampala, pour nous qui avons l'habitude d'y aller, pour comprendre ce qui vient de se passer. En fait, aujourd'hui, l'Ituri est en proie à, pratiquement, je ne dirais pas une nouvelle guerre, mais à une situation telle que beaucoup de ses fils intéressés par l'avènement de disons, la transformation du district de Ituri en province, prennent soin de pouvoir mettre en place des mécanismes qui doivent absolument obliger les pouvoirs, donc Kinshasa, disons, le gouvernement, Mobutu, à pouvoir, disons, faire marche arrière par rapport à sa volonté de retarder, l'avènement de la province, de l'Ituri en province. C'est, selon mes sources, par Kampala surtout, il n'est pas exclu que cet officier ait pu avoir des contacts, bien qu'étant en Kinshasa, mais avec plusieurs personnes qui se retrouvent aujourd'hui entre l'Ituri, certaines localités de l'Ituri et Kampala, où on contacte précisément un renouvellement d'intérêt par rapport à une situation qui cherche, en fait, ou par laquelle on cherche à entretenir une certaine confusion. C'est pourquoi, je pense, il est important de ne pas négliger la récrimination des enfants de l'Ituri, pas nécessairement tous, mais la grande majorité, pour prendre en compte les revendications. Autrement, demain, à partir de ce qui vient de se passer ou de ce qui se passe déjà, on risque de se retrouver dans une situation de relance d'hostilité en Ituri. Et ça, le gouvernement doit le savoir et le gouvernement a, disons, l'obligation de pouvoir s'épancher sur la situation de ce district.
Félix Kabouzi, certains notables de l'Ituri disent que le non-respect des engagements envers ces anciens chefs miliciens serait l'une des raisons de ces retours au maquis. Et notre ami Raphaël Kibongi vient d'affirmer qu'il est impérieux que le gouvernement s'épanche sur les problèmes de l'Ituri, mais il y a aussi les raisons qui sont avancées par tous ces chefs miliciens. Et récemment, il y a de ça quelques semaines, des Maïmaï au Nord Kivu sont rentrés aussi dans les maquis, évoquant aussi le fait que le gouvernement n'arrive pas à les prendre en charge. Quelle pourrait être votre lecture de cette situation?
Bon, je partage en partie cette lecture des faits, mais je voudrais d'abord affirmer que ce n'est pas la première fois que des chefs miliciens de l'Ituri, particulièrement ceux issus du FMI, FRPI, FPJC, si vous voulez, quittent clandestinement Kinshasa pour rentrer dans leur ancien maquis. Rappelez-vous que leur ancien président, Floribert Ngapu, qui se trouve aujourd'hui à la CPI, lui aussi avait été à un moment donné mis à résidence surveillée ici à Kinshasa, mais il s'est déguisé, il a pris son avion, il est rentré par Beni, et il s'est retrouvé à Bounia pour retrouver encore son maquis.
Et ce genre de phénomène peut être expliqué par quoi?
Et je crois que par les maladresses de notre système de sécurité, par le dysfonctionnement de l'armée, par la légèreté avec laquelle certains responsables traitent des problèmes aussi sérieux que la sécurité à l'Ituri. Ça, c'est un cas avéré de violation, si vous voulez, de règlement militaire. C'est un cas de désertion. C'est vrai que la plupart de ces ex-miliciens, lorsqu'ils intègrent l'armée nationale, ils sont un peu déçus, des fois. Ils ne sont pas effectivement suffisamment pris en charge. Parfois, leurs hommes de troupes aussi sont déçus. Mais je pense que lorsque quelqu'un qui
a lutté pour des raisons d'ordre patriotique ou je ne sais pas quoi, et qu'il rentre dans l'armée, il est même promu comme colonel, mais je crois qu'il y avait moyen de discuter de tous ces problèmes-là avec la hiérarchie militaire. Avec sa présence, on l'a dit, le touriste se trouve, si vous voulez, dans la panique. On ne sait pas quels sont ses objectifs politiques, militaires. On ne sait pas quels sont ses contacts. On ne sait pas ce qu'il vise, effectivement. On ne sait pas ce qu'ils sont derrière lui. Ce qui est vrai, c'est que la plupart de ses ex-miliciens ont tissé des relations avec plusieurs milieux mafieux, si vous voulez, des pays frontaliers. Ils ont des relations avec des milieux au Rwanda, à l'Ouganda, peut-être même au Soudan et peut-être même ailleurs. Donc, on ne sait vraiment pas. C'est un objet d'inquiétude. Effectivement, je partage cette inquiétude-là. Mais j'aimerais quand même que les responsables de ce mouvement FRPI réalisent que c'est un mouvement qui n'a pas d'issue, parce que le pays a déjà tourné la page de guerre, que ce soit les guerres interethniques, que ce soit les guerres de mouvements de rébellion ou quoi. Il faut bien qu'on construise ce pays et qu'on aille de l'avant. Voilà.
Luc Nkomo Kabonga, le ministre provincial de l'Intérieur du gouvernement de la province orientale, a affirmé cette semaine que Cobra Matata serait manipulé par certains hommes politiques. Est-ce que vous voyez une certaine manipulation dans cette affaire?
Écoute, je dois vous avouer que je ne m'intéresse pas trop de la personne de Cobra Matata, mais ce qu'ils ont fait faire m'inspire quelques idées. D'abord, il y a une distraction coupable dans le chef des services de sécurité, parce que lorsqu'on on sait bien que X était dans le groupe armé, on l'a méprisé, je ne sais par quelle formule, on l'a ramené à la capitale, il ne doit pas être laissé en si grande liberté. Comment, depuis une semaine, monsieur s'échappe et puis il se retrouve dans son mastodonte. Cette distraction-là, on doit savoir pourquoi doit-elle s'avérer-t-elle. Deuxième chose, c'est que monsieur est localisé. D'après le reportage de notre ami, on sait où il est. Je crois qu'un pays comme le nôtre, même si on dit qu'on est en train de reconstruire l'armée, nous avons quand même des services d'intelligence, et quand quelqu'un est localisé, il faut mettre le moyen pour limiter sa lisibilité. Mon confrère Félix Kabouizi affirme ici, dit qu'on a tourné la page de guerre, etc. Écoutez, Félix, il ne faut pas prendre tout de suite des raccourcis. Parce que quand vous avez ce qui s'est passé dans la province de l'Équateur, ce qui se passe juste à présent dans l'Itourie, d'ailleurs je suis heureux, vers les années 2001, 2002, 2003, j'ai effectué plusieurs voyages avec Félix dans la partie est de notre pays, et on s'était toujours dit que cette situation ne sera pas maîtrisée totalement avant 20 ans.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement d'interventions, comme je l'ai dit, par rapport à la mort de Chebeya, des influences extérieures, il y a des gens qui tirent des gains colossaux de la situation sécuritaire délétère, comme je l'ai dit, ici en République démocratique du Congo. Et ces gens-là, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été clairement identifiés et maîtrisés, il sera difficile d'affirmer qu'on a tourné la page des guerres, etc., etc. C'est ce que l'on doit faire. Il faut que la République démocratique du Congo se dote d'une armée dissuasive pour mettre fin aux velléités guerrières, si vous voulez, qui sont en train de pousser comme du champignon à gauche et à droite. Finalement, on se demande, est-ce que le lendemain est rassurant ou non?
Merci, nous passons à notre troisième thème de ce soir. Roger Miss succédera à Alain Dost comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo. Le secrétaire général Ban Ki-moon a donc annoncé mercredi dernier son intention de le nommer comme représentant spécial et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, en sigle. Le secrétaire général a informé les conseils de sécurité de sa décision dans une lettre datée du 7 juin. Les détails avec Lévin Mbinga.
Monsieur Roger Miss, qui va succéder à Landos du Royaume-Uni et citoyen américain, le nouveau représentant spécial apporte avec lui plus de 3 décennies d'expérience internationale avec des affaires étrangères de son pays, les États-Unis. Il a servi d'abord en tant que membre du corps de la paix. Il a travaillé ensuite dans le bureau du vice-président de 1986 à 1988 avant de poursuivre sa carrière à Washington DC comme directeur de la centrale des affaires africaines au département d'État. De 1998 à 2000, il est nommé consul général à Halifax au Canada. C'est par la suite qu'il va aller dans plusieurs pays sur le continent africain, surtout au Congo où il a été d'abord chef adjoint de mission à Kinshasa de 1995 à 1998. Il reviendra ensuite de 2004 à 2007 comme ambassadeur de son pays en République démocratique du Congo. Il a occupé d'autres fonctions au Cameroun, Nigeria et au Congo-Brazzaville. Tout au long de sa carrière, M. Miss a acquis une connaissance approfondie des questions africaines. Dans sa lettre au Conseil de sécurité, le secrétaire général a exprimé la gratitude à M. Landos pour son importante contribution aux efforts de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo et pour son leadership efficace de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo où il est en poste depuis janvier 2008. M. Miss est titulaire d'un diplôme en mathématiques de l'Université du Michigan. Il est né en 1949 à Indianapolis, Indiana.
Raphaël Kiongi, je rappelle que vous êtes directeur de rédaction du journal Jean-Sion, un hebdomadaire qui paraît à Goma au nord Kivu. Votre analyse par rapport à la nomination de M. Roger Miss?
En tout cas, c'est d'abord une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle qui confirme les informations à ma possession, parce que d'après mes sources, depuis quelques temps, la FDC serait en très bonne position dans les préoccupations des États-Unis à travers le monde. Alors, ce qui fait que, comme vous le savez très bien, avant Landos qui va partir, qui est prêt ses mandats, il y avait notre Américain qui, William Song, qui a bâti un travail de titan dont tout le monde se souviendra pour longtemps, tout Congolais se souviendra pour longtemps, et que ce soit encore un Américain qui revienne pour la MONUSCO. Là, en tout cas, je me dis qu'il y a quelque chose qui a bougé et qui va bouger, surtout que la partie où nous sommes, nous autres ici dans l'Est du Congo, a besoin d'une stabilisation, a besoin d'un renforcement, disons d'une amélioration des méthodes utilisées par le nouveau patron de la MONUSCO, et qui se rejeunisse, qui a une expérience, comme on vient de le décrire, des affaires africaines et surtout de notre pays, soit désigné à cet important poste, prouve à suffisance le souci et des États-Unis et de la communauté, du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans l'ensemble, de finaliser un projet qui pourra, dans un bref délai, 2 ans ou 3 ans, stabiliser la partie est du Congo, et compte tenu du fait que la MONUSCO aura comme mission principale la protection de la population. Donc on s'est dit que vraiment là, les choix portés sur ce projet, Nice, est vraiment le bienvenu et a été un choix judicieux.
Voilà. Nikomo Kabonga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Nouveau Regard et directeur des infos à Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et Roger Miss est un diplomate chevronné, il connaît bien le Congo pour y avoir déjà travaillé. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui?
En tout cas, pour moi, pas grand-chose. Je l'ai dit tout à l'heure que de la MONUC à la MONUSCO, c'est blanc bonnet blanc, ce calembour vaut encore maintenant son pesant d'or. Les États-Unis, au monde, ils ont une logique de la philosophie politique. C'est-à-dire que c'est un État qui sait ce qu'il veut faire. Il est bien vrai que, bon, chacun vient avec sa touche, mais quand mon ami l'éditeur de Jonction dit que c'est un choix judicieux, bon, je veux bien, il a déjà été ici chez nous, mais quand je regarde mon peuple, les différents représentants des États-Unis ou du secrétaire général des Nations Unies qui viennent ici, qu'est-ce que ça change dans le vécu quotidien de Congolais? Et je réponds, pas grand-chose.
Donc, il faut se rappeler que les vécu du quotidien congolais, c'est plutôt le gouvernement congolais qui doit s'en occuper.
Oui, mais lorsqu'il y a des petits cas politiques, c'est pas seulement le gouvernement. On met le gouvernement au pied du mur et on dit qu'il ne fait rien quand il faut véritablement aider le gouvernement pour répondre à certaines attentes de la population. C'est plus de belles promesses plutôt que de beaux et concrets actes.
Félix Kabouzi, je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien La Référence Plus, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Votre analyse par rapport à la nomination de M. Roger Miss.
Bon, je constate d'abord que c'est un habitué de notre pays. Sa biographie montre qu'il a œuvré pendant beaucoup d'années en Afrique, comme son prédécesseur William Swing, qui a fait pratiquement le tour de la plupart des pays africains en conflit. Lui aussi a été ici chez nous, il a été au Congo-Brazzaville, il a été au Cameroun, il a été au Nigeria, donc il connaît plus ou moins les problèmes qu'il va affronter. En fait, ces problèmes-là, c'est quoi? Ces problèmes-là, c'est, si vous voulez, appliquer le nouveau mandat de la MONUSCO, qui se résume à peu près à deux choses. Stabiliser, si vous voulez, la situation sécuritaire dans notre pays, puisqu'il y a quand même une évolution positive par rapport aux années de guerre. Donc, il y a, si vous voulez, le pays se trouve en situation, comme on dit, de post-conflit. Donc, il faudrait donner suffisamment de garanties pour que disons que la paix, la stabilité sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, se concrétise réellement. Donc, quoi que ça, c'est son premier mandat. Et le deuxième mandat, c'est, si vous voulez, préparer, disons, aider à la protection des populations civiles.
Merci. C'est la fin de cette émission. Guy Mandangou était à la technique. Et Céline Couté à la réalisation, assistée d'Alain Hirong et Samuel Kachak. Sous la supervision de Félix Pela Mondo, devant le micro, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Thank you.